Le Seigneur nous accueille ce matin. Le Seigneur vient à notre rencontre. Le Seigneur est avec nous quand le parcours est difficile. Que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Amen. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais d'abord commencer par ce qui concerne les enfants. Nous avons prévu un service d'accueil. Daniel, qui est là, debout près de la porte, va s'occuper des enfants qui le désirent dans la salle F au sous-sol, et ceux qui veulent l'accompagner peuvent le faire maintenant. Je me réjouis de célébrer ce moment de culte avec vous ce matin. C'est une grâce qui nous est offerte. C'est une grâce que le Seigneur nous procure. Je vous invite à nous placer devant lui par la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous voici rassemblés ce matin. Tu nous accueilles dans cette chapelle où tu nous as précédés. Nous voulons te rencontrer et nous rencontrer les uns les autres. Permets que cela soit possible par la présence de ton esprit en nous. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble notre foi avec le cantique numéro 2108 à la page 236, c'est toi, Seigneur, qui nous unis.
Thank you. Nous louons notre Seigneur. Pour cela, nous écoutons la lecture du psaume 62. C'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille. C'est de lui que me vient le salut. Lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, aucun risque de faiblir. Jusqu'à quand vous unirez-vous pour assaillir et abattre un homme, comme on abat un mur qui penche ou une clôture branlante? C'est seulement près de Dieu qu'il me faut chercher la tranquillité, car c'est lui qui me donne espoir. Lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, pas de risque de faiblir. Plus d'une fois, j'ai entendu cette parole de Dieu. C'est à moi qu'appartient la puissance. À toi aussi appartient la bonté, Seigneur, car tu traites chaque homme selon ce qu'il fait.
Confession des péchés. Ô Père, ton Fils vient vers nous et nous ne le recevons pas. Tu nous parles et nous ne répondons pas. Tu nous aimes et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves et il semble que cela nous importe peu. Nous voici maintenant devant toi tels que nous sommes. Aide-nous à saisir ton pardon, à accepter cette libération et à vivre dans la joie avec et pour nous, dans la joie avec et pour nos frères et sœurs. Annonce du pardon. Celui qui croit au Fils unique de Dieu n'est pas jugé. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Nous avons été lavés. Nous avons été pardonnés, nos péchés nous ont été remis, nous allons dans la paix du Christ. Amen. Nous allons nous lever pour chanter le chant 35-19 à la page 492 pour que le jour qui se lève.
Avant les lectures bibliques, j'aimerais vous lire une prière d'illumination. moment de lire la parole de Dieu, nous prions. Seigneur, tu es venu nous rejoindre afin que nous devenions tes enfants. Nous te demandons de nous enseigner ta parole, de nous éclairer par ton esprit vivant en nous. Ainsi, nous serons capables de te comprendre et de vivre en témoin de ta présence en nous. Amen. Et maintenant, je vous lis un très très court extrait de Michée au chapitre 6, le verset 8, dont les paroles sont les suivantes. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que le Seigneur demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous écoutons maintenant un petit morceau de musique. Maintenant, il y a un extrait des Béatitudes dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5. Juste quelques phrases très courtes. Heureux ceux qui sont humbles de cœur. Heureux ceux qui ont soif et faim d'un monde juste. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres. Et heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice.
Voilà, bonjour, ça va le micro, c'est suffisant? Ça va, ok. Donc nous poursuivrons ce matin notre parcours ensemble autour de ce thème commun en marche avec Dieu, avec des textes très divers, très différents, des approches très différentes, c'est un peu toute la richesse de nos échanges intercommunautaires. Et quand on a proposé une série de textes sur ce thème au mois de juin, dans l'organisation de cet été, ce texte du prophète Michée qu'on vient de lire, il m'a tout de suite accroché. C'est un texte qui nous interpelle sur une question qui est centrale dans toute la Bible, qui est celle de la justice. Et ce texte, il a trois mots-clés, ou disons notions-clés, parce que les mots, on peut les traduire de différentes manières. Il y a celle de justice, ensuite il est question de miséricorde. On verra que ce mot a un sens beaucoup plus large que ça, et celle d'humilité. Alors je ne sais pas qui d'entre vous connaît ce que c'est que Stop Pauvreté. Il y a comme quelques personnes dans l'Église évangélique. En fait, c'est Stop Pauvreté, c'est la version suisse d'un mouvement international qui est né parmi les chrétiens évangéliques il y a environ une vingtaine d'années et qui s'est donné comme slogan précisément ce verset de Michée qui s'appelle le défi Michée, Micah Challenge en anglais. Et ce qu'ils font en Suisse, c'est un peu un parallèle de ce qui a été fait pendant très longtemps par Pain pour le Prochain, qui maintenant s'est restructuré et c'est les pères, et puis action de carême. On est un peu dans le même mode d'engagement pour la justice dans ce monde. Donc ce mouvement qui s'appelle Défi Miché, il est né en 2002. Il y a des chrétiens de 282 organisations chrétiennes qui se sont mobilisés au moment où les États du monde lançaient les objectifs du millénaire pour le développement, avec l'objectif de réduire la pauvreté de moitié d'ici 2015. Je pense qu'on n'y est pas tout à fait arrivé. Mais ces chrétiens étaient convaincus qu'en tant que chrétien, on doit s'engager résolument pour ce genre de questions. Personnellement, j'ai été sensibilisé à ces questions de justice il y a fort longtemps. C'était à l'époque de mes études. Et c'était entre autres, parmi d'autres choses, par des livres du pasteur André Bieler. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Je crois qu'il a été pasteur à Chancy au tout début. Voilà. Et il a écrit un livre qui s'appelait « La politique de l'espérance » en 1971. Il a été le fondateur de la déclaration de Berne, c'était une déclaration qui s'engageait pour que la Suisse ait au moins, je crois, 0,7% de son budget pour l'aide au tiers-monde, comme on disait à l'époque. Il a aussi écrit un livre qui s'appelait « Le développement fou » en 1973. Et probablement que si on avait un peu plus écouté ces voix prophétiques, on serait un peu moins au pied du mur aujourd'hui. Alors je dois dire que pour moi, cette prise de conscience, ça a été une des motivations, pas la seule, mais c'est une des motivations qui m'ont amené à partir en mission au Laos, dans un parcours dont je ne pouvais pas deviner à l'époque qu'il m'amènerait un jour à Mérin, bon, à travers les Heiniger que vous connaissez bien. Alors, qui est ce prophète Miché? On se trouve à peu près, un peu plus de 700 ans avant Jésus-Christ, un moment où le pays d'Israël était divisé en deux royaumes, un du nord, un du sud, et le royaume du nord venait de se faire manger, de se faire envahir par l'étranger. Et Miché, il voit le malheur venir et il veut avertir ses concitoyens. Alors, il s'en prend dans son livre, mais ce n'est pas le seul livre de l'Ancien Testament qui le fait, il s'en prend avec vigueur aux chefs et aux puissants qui exploitent le peuple. Quelques exemples. Deux, s'ils veulent des champs, ils les prennent. S'ils convoitent des maisons, ils s'en emparent. Ils oppriment des hommes et leurs familles en s'appropriant les biens qui leur appartiennent. Bon, c'est assez actuel, hein. Moi, je pense de nouveau au Laos, où on a pas mal de paysans qui se perdent leurs terres parce qu'il y a des investisseurs chinois qui corrompent les autorités locales pour avoir des grands terrains, qui amadouent les populations, leur faisant miroiter des emplois, voilà. Et puis les gens se retrouvent sans rien. un peu plus loin... Qu'est-ce qu'il raconte là? Écoutez donc, dirigeants des descendants de Jacob, vous détestez la justice et violez le droit, vous bâtissez la prospérité de Jérusalem, la ville de Dieu, sur le meurtre et l'oppression. Les magistrats y rendent la justice contre des cadeaux. Les prêtres se font payer pour enseigner la loi. Les prophètes prédisent l'avenir contre de l'argent. Et cependant, ils osent se réclamer du Seigneur. Au chapitre 6, par la parole du prophète, il leur rappelle l'événement fondateur du peuple d'Israël, qui est sorti d'Égypte en leur disant « Me reprochez-vous de vous avoir fait sortir d'Égypte, de vous avoir délivré de l'esclavage ?» Comme si tous ces gens avaient oublié ce que c'est que d'être en esclavage. Alors, au début du chapitre 6, il pose la question, quelle offrande devons-nous apporter quand nous venons adorer le Seigneur ? Autrement dit, traduit autrement, c'est quoi la vraie religion? Alors pour cette époque, souvent c'était des sacrifices qu'on offrait. Nous, ça ne nous dit rien, mais il y a d'autres pays ou d'autres cultures dans le monde où ça leur dit quelque chose, parce qu'on fait des sacrifices pour avoir la bienveillance des dieux ou des esprits. Mais c'est quoi la vraie religion? Est-ce que c'est nos cantiques et nos prières? Est-ce que c'est des règles qu'on suit à la lettre? Mais arrivé d'entendre au Laos, ça, les chrétiens, ils fument pas puis ils boivent pas. Bon, c'est bien, mais si c'est ça la religion, voilà. Mais pourtant, dans les réunions interreligieuses qui s'organisent, c'est souvent autour de trucs comme ça que ça coince. Hein? Eh bien non, répond le prophète, la vraie religion, ce que Dieu demande, c'est fait de justice, de miséricorde ou bonté, et d'humilité, marcher humblement devant son Dieu. Alors tout ça, ça s'inscrit dans une histoire très concrète que la Bible raconte avec un réalisme assez saisissant, même si le récit biblique, c'est vrai que c'est une construction théologique, mais c'est très réel. L'histoire du peuple d'Israël commence donc par un peuple opprimé et exploité, par une puissante Égypte, dont aujourd'hui on va admirer les pyramides, sans trop s'imaginer tout le sang qui a été versé. Voilà. Et quand Dieu se révèle à Moïse, il se révèle en lui disant « J'ai vu ». La souffrance de mon peuple, je suis descendu et j'ai vu. Et plus tard, ce peuple qui est délivré de l'Égypte, il veut faire comme tout le monde, il veut se doter d'un roi, Et puis, malgré les prophètes qui essayent de les avertir que ça va les amener de nouveau à des questions de violence et d'exploitation, ils en veulent à tout prix, et l'histoire se répète, les riches s'enrichissent aux dépens des pauvres, les puissants exploitent le peuple. Alors c'est de l'histoire ancienne, mais qui est assez moderne finalement. Nos livres d'histoire, ils font bien l'éloge des puissants dans le monde, mais la Bible, elle raconte l'histoire en montrant les puissants sous leur vrai jour. Il y a quelques grandes figures, mais dont on n'oublie pas les terribles faiblesses. Et puis, il y a une grande quantité de rois, infidèles, exploiteurs et tout ce que vous voulez. Et la Bible donne la parole aux petites gens. Elle porte haut la parole critique des prophètes qui sont toujours là, pour rappeler, pour dénoncer les injustices, pour fustiger les exploiteurs, pour appeler aussi à la conversion. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ce défi Miché. Il y a 10 ans, j'ai eu le privilège de participer à une conférence internationale qui a été organisée en Suisse sur toutes ces thématiques. Et puis ça, c'est un mouvement qui a été marqué par des théologiens du Sud, comme on dit maintenant, des théologiens d'Amérique latine, d'Inde, du Sri Lanka, des théologiens de pays qui savent ce que c'est que d'être dans la partie du monde qui est défavorisée. Et le théologien Sibyl Samuel racontait une anecdote que je trouve intéressante sur ce thème, parce qu'un jour en Inde, il y avait une réunion interreligieuse sur les questions des objectifs du millénaire pour le développement, et puis il a été appelé à faire la conférence inaugurale. Et puis il leur a dit, les uns un peu interpellés, il dit « En Inde, on a des millions de dieux, il devrait bien y en avoir au moins un qui se révolte contre les injustices ». Si jamais il n'y en a pas, il faudrait l'inventer. Bon, à la fin de la réunion, parce qu'il a aussi parlé de Dieu, À la fin de la réunion, l'un des participants qui était autour d'une tasse de thé, il lui a dit, Monsieur Samuel, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais le Dieu judéo-chrétien, c'est le seul qui se met en colère contre l'injustice. Ça montre quelque chose de vraiment du caractère unique de Dieu, du vrai Dieu. Mais finalement, c'est quoi la justice? Parce qu'on a une certaine conception. Je pose une question. Hein. Il y a juste deux semaines, les forces américaines ont tué à Kaboul ce monsieur Ayman al-Zawahiri, je ne sais pas trop comment le prononcer, peu importe, le chef d'Al-Qaïda, qui a été tué par une attaque par drone. Hein. Voilà. Tout ça pose des questions. Mais le président des États-Unis s'est empressé de dire « justice a été faite ». Non, je pose seulement la question, hein, parce que je pense qu'après les milliers de morts causées par Al-Qaïda, il n'y a pas grand monde pour regretter la disparition de ce monsieur. Mais la question reste, est-ce que c'est cela la justice de Dieu? Je ne vais pas donner les réponses, hein, je pose que des questions là. Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à nous protéger? Ou est-ce encore, est-ce que c'est quelque chose qui va encore alimenter la haine contre les États-Unis et contre l'Occident? Alors, j'ai oublié de vous mettre. Parce que notre texte met vraiment ensemble les deux, justice et bonté. Ce qui n'est pas complètement naturel dans nos têtes, je pense. Bonté, c'est un terme aux multiples traductions, au sens très large. C'est chesed en hébreu, qui est traduit par, suivant les versions et suivant les endroits, par bienveillance, miséricorde, compassion, amour, grâce et même fidélité. Ce qui montre que cette compassion de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui ressemble à un coup de cœur, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée et dans la fidélité. Alors, on a parfois dans nos têtes l'image d'un Dieu de l'Ancien Testament qui est vengeur et sévère, alors que dans le Nouveau Testament, on a un Dieu qui est bon et amour. Et puis, on dit parfois, Dieu est bon, mais juste. Vous avez déjà entendu cette phrase? Oui, bon. Ben moi, il me dérange un peu ce « mais ». Et si Dieu était juste parce qu'il est amour? Dieu a un tel amour pour les hommes et les femmes qu'il a créés, qui sont tellement précieux à ses yeux, et pour toute sa création aussi, qu'il ne supporte pas que ses créatures soient rabaissées, vilipendées, exploitées, vendues en esclavage, victimes de traite des êtres humains, torturées, violées. La justice de Dieu est inséparable de sa miséricorde. Mais j'ajouterai ici quand même une notion qui n'est pas dans ce texte, mais qui est dans le livre, le message d'avertissement et même de condamnation des prophètes, il porte toujours en lui une note d'espérance, de salut. Je le vois dans, par exemple, chapitre 7, chapitre suivant, verset 9, « Nous devons supporter la colère du Seigneur, car nous avons péché contre lui, mais le moment viendra où il défendra notre cause et rétablira nos droits, il nous ramènera à la lumière. » Il y a toujours la lumière quelque part au bout du chemin. Et tout cela en marchant humblement avec notre Dieu. Car la marche chrétienne, ce n'est pas un marathon hein, avec des premiers et des derniers. Mais c'est, comme d'ailleurs ça a été très bien souligné par Michel Félix dans sa prédication de dimanche dernier au village, c'est une humble marche ensemble où on s'entraide, On s'encourage, on aide ceux qui tombent à terre, on les aide à se relever. Et l'humilité veut rester en bas, hein, c'est... Voilà, elle se relève un peu moins haut parce que... Voilà.
Je suis pas aussi grande.
Oui, Dieu aime les humbles. C'est un thème qui est présent dans toute la Bible, qui est présent dans tout le Premier Testament, mais qui est encore plus nettement souligné dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas pour les écraser, c'est justement pour les relever. Alors, que faire de tout cela aujourd'hui? Je vais soulever quelques questions actuelles. C'est plus des questions que des réponses, parce que pour les réponses, il faudrait avoir des groupes de discussion. Et puis je conclurai par un petit retour au Nouveau Testament. Les occasions de nous engager pour la justice ne manquent pas. Ça peut être les petites injustices locales ou les grandes injustices structurelles, face auxquelles on se sent terriblement impuissant, mais ce n'est pas une raison pour se désengager. Et d'ailleurs, l'engagement des chrétiens peut porter des fruits, et il y a des exemples. Michel Félix citait Martin Luther King, hein, le dimanche dernier. On peut penser au militantisme des chrétiens, je crois que c'était à peu près au début de notre siècle, qui ont milité et réussi à obtenir qu'un certain nombre de pays du tiers-monde aient leurs dettes annulées. Voilà, on peut penser au militantisme contre l'esclavage, mais on doit rester humble parce qu'il y a aussi des chrétiens qui l'ont pratiqué et encouragé. On peut penser à Nelson Mandela et à Desmond Tutu, qui malgré bien des faiblesses, ont quand même réussi à éviter un bain de sang et à proposer une réconciliation entre noir et blanc. Voilà. Et puis, il y a un aspect de la justice qui est très actuel, qu'on appelle la justice climatique. La justice climatique, c'est de penser qu'on n'est pas tout seul et que nous, en Occident, on est ceux qui avons bénéficié de tous les avantages que nous a donné la révolution industrielle. Mais c'est nous qui avons mis le plus de CO2 dans l'atmosphère par l'usage des carburants fossiles. Donc des fois, on dit oui, mais la Chine, il pollue plus que nous. Mais il ne faut pas oublier ce que nous, on a fait avant. Si on continue la course folle d'aujourd'hui, sans prendre le virage qui est nécessaire, ben, c'est nos enfants qui en pâtiront. Donc la justice, c'est aussi de penser maintenant à nos enfants. Il est temps d'agir maintenant. Alors, la justice, oui, mais aimer la bonté et la bienveillance, c'est quoi? Ben, c'est être attentif à chacun, en particulier aux plus vulnérables. Ça, c'est quelque chose qui est, je crois, constant dans la Bible et qui devrait nous orienter. Ça peut être dans notre entourage personnel. Ça peut être dans l'église, ça peut être dans le travail, d'être attentif à tel collègue qui se fait maltraiter ou mobber, comme on dit. Ou bien, si on est prof, à cet élève qui est en train de perdre pied, qui se décourage. Et puis finalement, l'humilité, qu'est-ce que ça nous dit dans la vie de nos engagements? Ben, c'est le contraire de l'arrogance, déjà. L'arrogance qu'on a parfois dans nos positions, dans nos engagements, dans nos paroles, on est parfois arrogant. C'est aussi le contraire du paternalisme. Et dans tout ce qui est aide dans les pays du Sud, il y a eu souvent, et il y a encore souvent, beaucoup de paternalisme, où on croit trop bien savoir pour les autres. L'humilité chrétienne consiste à mettre en valeur les gens, à écouter ce qu'ils ont à nous dire et pas à leur imposer ce que nous pensons être bon pour eux. Et puis l'humilité, c'est aussi accepter de travailler avec les autres dans nos engagements, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, hein, dans tous les domaines, en sachant qu'on n'a pas des solutions toutes faites, qu'on a aussi à apprendre des autres dans toutes ces circonstances. Et finalement, dernier point avant de passer au Nouveau Testament, l'humilité rime avec simplicité et sobriété. Et je pense qu'une certaine sobriété est à rechercher, à retrouver dans nos vies. C'est quelque chose qui est salutaire pour notre santé spirituelle. Et c'est quelque chose qui est indispensable face aux enjeux écologiques d'aujourd'hui, car je suis sûr qu'on ne va pas s'en sortir en comptant uniquement sur un meilleur développement technique. On a besoin aussi de sobriété, de ralentir certaines consommations. Alors, on pourrait donner plein d'exemples, mais ce n'est peut-être pas le lieu. Quand Jésus enseigne ses disciples sur la colline, hein, c'est le début du sermon sur la montagne, du fameux sermon sur la montagne, dont on a lu un extrait tout à l'heure, ben, il se trouve que 4 de ces 8 béatitudes, j'aimerais quand même les relire, hein, si je les retrouve, ils étaient là. Bon, je vais les dire par cœur. 4 des 8 sur les 8 béatitudes reprennent les mêmes notions clés que là. Heureux les pauvres, oh, heureux les humbles de cœur, heureux ceux qui combattent pour un monde juste, et heureux que ceux qui sont pleins de bonté pour les autres. Et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, pour leur combat pour la justice. Donc c'est quand même intéressant que Jésus reprenne de manière si proche ces mêmes notions. Et dans la prière du Notre Père, c'est juste après ces béatitudes, nous prions souvent ensemble que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ben, c'est une prière pour que se réalise la justice dans ce monde, et qu'il s'y manifeste l'amour et la bienveillance de Dieu. Donc c'est une prière qui nous engage. Alors pour conclure, en résonance avec la Sainte Cène, nous allons partager tout à l'heure, on peut dire qu'à la croix, c'est Jésus qui accomplit pleinement ce programme. Et je crois que c'est là un message qui ne se limite pas à notre salut personnel, mais qui a aussi une portée et une pertinence très concrètes dans la société actuelle. C'est en ce lieu, c'est à la croix, que Jésus est l'expression même de la miséricorde et de la grâce de Dieu, dont nous sommes les bénéficiaires. Il l'est en mourant de la manière la plus injuste qui soit. Il porte sur lui toute l'horreur du mal, de la violence et de l'injustice humaine, mais il met ainsi fin au règne de la vengeance pour inaugurer celui du pardon et de la grâce. Et puis, il est notre modèle d'humilité et de service par le don de sa vie, comme dans la manière dont il a vécu, dont il a rencontré les gens, dont il a remis debout les faibles et les exclus. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci à Sylvain pour cette belle prédication. Merci à Aline également, qui nous accompagne ce matin dans les lectures. Je passerai maintenant à la chose suivante. Ce ne sont plus les béatitudes, mais c'est la confession de foi. Je vous invite à proclamer notre foi en proclamant ensemble la confession de foi qui se trouve à la page 1107 du recueil Alléluia. Nous lisons ensemble la colonne 2. Voilà, si tout le monde a la page. Voilà, alors je lirai les paragraphes impairs et je vous invite à lire les paragraphes pairs. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Voyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est commune espérance. Amen. Nous nous lèverons pour chanter maintenant au numéro 4805 à la page 753, Quel ami fidèle et tendre.
avant la Sainte Cène, j'aimerais vous lire une prière d'intercession. Nous avons proclamé notre foi. Nous pouvons maintenant intercéder auprès de Dieu en sachant qu'il nous écoute et qu'il veut nous répondre. Nous adressons ainsi notre prière au Seigneur. Seigneur, nous nous approchons de toi et nous t'adressons notre prière. Nous te disons tout d'abord merci pour ta compréhension. Depuis toujours, tu n'as pas pris comme fait accompli notre révolte et notre manque de confiance envers toi. Au contraire, tu as voulu nous rejoindre et t'occuper de nous. Tu ne supportes pas que les hommes soient soumis et exploités les uns par les autres. Seigneur, tu as laissé tes disciples seuls dans la barque. Ils pensaient peut-être que tu les avais abandonnés. Et pourtant, tu étais près d'eux. Tu connaissais leurs problèmes et leurs difficultés à avancer. Ils ramaient, comme il nous arrive aussi de ramer. Nous aussi, nous avons parfois ce sentiment. Il nous arrive à nous de ne plus savoir où nous en sommes. Lorsque nous ne savons plus où nous tourner, comment nous y retrouver dans notre vie, sois notre boussole. Indique-nous où tu te trouves afin que nous puissions nous tourner vers toi. Rejoins-nous au milieu de nos tempêtes. Nous te prions pour les gouvernements de notre pays, de notre canton, de notre commune. Pour eux aussi, nous demandons cette sagesse de savoir vers qui se tourner en cas de besoin. Seigneur, nous te prions pour notre paroisse, pour notre Église, pour tous ses membres et pour ses autorités. Que tous ensemble, nous soyons des témoins de ta vie au sein de la société. Maintiens l'unité entre tous. Nous te remettons aussi toutes les personnes qui nous sont chères. Nous te les nommons dans notre cœur. Nous pensons en particulier à celles qui sont fragilisées par la maladie ou toute autre atteinte, de quelque nature qu'elle soit. Nous te remettons toutes nos préoccupations et tout ce qui pourrait nous éloigner de toi. Nous faisons silence pendant que nous déposons tout cela à tes pieds. Amen. Nous passons maintenant à la Sainte Cène. Je laisse Sylvain venir devant.
Jésus le Christ nous accueille maintenant au repas. Il nous offre. Parfois, il nous semble qu'il nous abandonne à nous-mêmes, au milieu de la mer et avec un vent contraire, et pourtant, il est là. Il nous rejoint, il reste présent à nos côtés jour après jour. Et même si nous ne nous en rendons pas compte, il a toujours l'œil sur nous. Il est le grand Dieu sauveur. Aussi, nous le louons et nous proclamons saint et le Seigneur, avec le chant de Sanctus, 62-45, page 988.
prendre place. Voici ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Ainsi, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, nous annonçons sa mort, quand nous mangeons de ce pain et que nous buvons de cette coupe.
Prions. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange de la part de tes fils, des filles et de tes fils. Tu as donné ta vie pour nous. Nous t'en remercions. Nous vivons maintenant par toi. Tu es celui qui nous soigne et nous guérit. Nous réclamons maintenant sur nous et en nous la présence de ton esprit. Par lui, rends-nous capables de discerner ta présence dans son repas que nous allons partager. Que nous découvrions, comme si c'était la première fois, que tu fais de nous tous ensemble, les uns avec les autres, ton corps, l'Église, le rassemblement de tous ceux qui ont mis leur confiance en toi.
Le Seigneur lui-même nous accueille à la table que nous avons dressée. Venez, le repas est prêt. Nous vous invitons à nous rejoindre en faisant un grand cercle autour de la table. Un grand cercle dans l'enceinte du temple, en l'occurrence ce matin.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Par lui, nous formons un seul corps. La coupe de bénédiction pour laquelle nous disons merci est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été répandu pour nous, pour le salut de tous les êtres humains.
Alors, je vais vous expliquer de quelle manière nous allons procéder. Nous irons, Aline et moi, chacune d'un côté, avec la coupe de vin. La coupe de jus de raisin est marquée par un ruban bleu. Nous vous passerons la corbeille et nous procédons par intinction. Ce terme veut dire que nous trempons le morceau de pain dans le vin ou dans le jus de raisin. Je vous invite à regagner vos places.
C'est bon, j'ai trouvé. Sylvain, j'ai trouvé. Alors, je vous invite à dire avec moi maintenant la prière du Notre Père. Et puis, je vous la lis et vous pouvez volontiers la dire avec moi. Seigneur, tu nous as accueillis à ta table. Nous te louons pour ton amour pour nous. Nous allons maintenant, remplis de ta joie et de ta force, prêts à vivre et à nous embarquer dans la vie que tu nous offres. Donne-nous d'être fidèles à l'amour dont tu nous as aimés. Nous pouvons donc te prier en t'appelant notre Père, comme tu nous l'as enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous vous invitons maintenant à chanter le chant suivant, c'est le chant 47-19, à la page 750. Tu es là, au cœur de nos vies. Et pendant ce chant, nous passerons pour prendre l'offrande.
Thank you.
Quelques annonces avant la bénédiction et la musique de fin de culte pour laquelle nous resterons assis. Nous reprendrons place. Mercredi prochain, des grillades. Enfin, j'espère que ce sera un peu sec, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent mieux la météo que moi. Mais enfin, voilà, en principe, ça a lieu.
Hein?
Ils annoncent pas très beau. Bon, bah, c'est en principe, c'est prévu à 18h30, 19h. Ah, ouais, 6h30, 7h, quoi. Les grillades, voilà. Donc, sur la place verte, à côté de la chapelle et de l'église évangélique, au village. Enfin, verte, elle est plus très verte, mais voilà. Dimanche prochain, culte aussi au village avec Nicolas Genecamp. Et puis, il y a un culte régional en même temps à Châtelaine, salle de paroisse du 26. Ouais, Châtelaine, la salle de paroisse. Ouais, voilà. Ok. Je vous propose de vous lever pour la bénédiction et de vous rasseoir pour la musique. Alors que le Seigneur nous inspire pour être pleinement engagés pour la justice dans toutes les sphères de nos vies et dans les lieux où il nous a placés. Qu'il nous donne par son esprit d'être remplis de sa bonté et de sa bienveillance, d'être les humbles témoins de Jésus-Christ et d'être des porteurs d'espérance tout au long de nos journées. Amen.
Notre-Dame.